Bonjour à tous, comme toujours, comme chaque lundi, vous écoutez votre émission de tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout, mais surtout de rien. Aujourd'hui, ce lundi, une petite émission un peu particulière, parce que je dois vous l'avouer, chers auditeurs, je suis en ce moment en train de déménager, ce qui fait que je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour faire du montage. Donc vous allez avoir aujourd'hui un épisode un petit peu hors série, un épisode donc un peu spécial. Cet épisode, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le premier épisode que nous avons enregistré, l'épisode pilote. Ce qui signifie la chose suivante, c'est que l'épisode que vous allez visionner, eh bien, est très ancien. Je ne vous le cache pas qu'il n'est pas forcément très bien monté. L'enregistrement s'est fait sur une petite tablette, donc le son n'est pas forcément de la meilleure qualité. Vous verrez d'ailleurs la différence entre ce micro-là et le micro de la tablette que nous avons utilisé à l'époque. Ce premier enregistrement, il s'est fait début mars, quelques jours seulement avant le confinement. Je me souviens, j'avais invité du coup Mickaël, que vous connaissez maintenant, ainsi qu'Alexandre et Fanchon chez moi. Et à l'époque, je vivais donc en colocation avec Raphaël, mais également avec Cécile et Vincent. Et du coup, j'avais plus ou moins, entre guillemets, forcé mes colocataires, on peut les plaindre au vu de la qualité de ce pilote, à participer à ce premier épisode. Vous savez comment ça s'est terminé. Au final, seul Raphaël a décidé de continuer à participer aux émissions. Vous voyez le travail formidable qu'il fait à chacune de ses interventions. C'est la personne qui est le plus intervenue au final dans l'émission. Et je l'en remercie vraiment du fond du cœur. Merci à toi Raphaël si tu entends ce petit message. Quoi qu'il en soit, vous allez rapidement voir que nous galérons, nous sommes un petit peu intimidés finalement par cette idée d'émission. Et ça nous montre aussi finalement avec un petit peu de recul que finalement on s'est quand même pas trop mal amélioré avec le temps. Mais cela, je vous laisserai seul juge de ce que vous en pensez. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et j'espère que malgré tout cet épisode un peu test, ce premier épisode, vous plaira. Merci à vous tous encore une fois.
Bon écoutez, bienvenue à tous, je suis content de vous avoir aujourd'hui avec moi. On va faire un petit tour de présentation pour commencer, donc je propose qu'on aille de la droite vers la gauche. Donc à droite, j'ai Vincent du coup. Comment ça va Vincent?
Ça va très bien, merci.
Super.
Merci de m'avoir invité.
Mais je t'en prie Vincent, c'est naturel. Suivi de Fanchon.
Bonjour.
Oui, j'allais dire ton prénom, enfin je pensais que t'allais dire ton prénom en fait à la base.
Donc, ah oui, non, mais tu dis tellement bien que...
Là, c'est vrai, donc je vais continuer comme ça. Ensuite on a Mickaël du coup, qui est là-haut, Mika.
Bonjour à tous.
Pour les intimes. Et bonjour à toi, Mika.
À tous et à toutes, bien sûr.
Oui, bien sûr. Ensuite, Alexandre.
Bonjour.
Raphaël.
Bonjour.
Et enfin, Cécile.
Salut.
Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis donc très ravi de vous recevoir ici. Donc, c'est une émission qui est un peu particulière parce que c'est un pilote. Donc, ça va s'entendre très rapidement qu'effectivement, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on parle plutôt de tout et de rien. Chacun va amener un petit peu un sujet dont il a envie de parler les uns après les autres. On peut commencer chacun à son tour. Si vous avez une idée en particulier, on peut lancer un petit débat, quelque chose comme ça.
Moi j'ai peut-être un truc, effectivement, tu pourrais peut-être aussi te présenter toi.
Ah oui, c'est vrai, je ne me suis pas présenté, c'est vrai, effectivement. Bah, c'est toujours le premier problème, on oublie toujours un peu de se présenter soi. Moi c'est Marc, du coup, voilà, c'est moi qui suis votre serviteur pour commencer cette émission. Alors je vous prépare vraiment un truc tout petit, vous voyez, ça tient sur une toute petite feuille, il paraît qu'il y en a qui ont fait plus, donc on verra ça plus tard. Moi je voulais parler d'un petit truc en particulier, parce qu'en fait la semaine dernière je traînais sur Netflix, c'est quelque chose que je fais très régulièrement de traîner sur Netflix, et je cherchais quelque chose à regarder. Je suis tombé sur le top 10 des meilleures séries du moment sur la plateforme. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, parce qu'en ce moment ils font ça, il y a le top 10 avec la première série Narcos, la deuxième série Narcos aussi. Enfin, je regarde beaucoup Narcos en ce moment. Et j'avais fini justement une des saisons de Narcos et j'avais envie de faire une pause. Et je suis tombé sur Altered Carbon, ou Carbon modifié de son petit nom français. Est-ce que vous connaissez ou pas?
De nom.
Pas du tout. Je n'ai pas Netflix, absolument. Alors je ne connais rien.
Alors Altered Carbon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de SF où en gros les gens ont réussi à stocker leur conscience dans un disque qui est placé près d'un rachis de leur colonne vertébrale. Du coup, s'ils meurent, il suffit de récupérer le petit disque et de le placer dans une nouvelle enveloppe corporelle. Plutôt sympathique.
Mais donc il y a des enveloppes vides ?
Oui, il y a des enveloppes vides. Okay. Du coup, okay. En fait, en gros, c'est une série qui parle de notre rapport à l'immortalité et à l'apparence. En gros, qui est-ce que vous êtes en dehors de votre chair, de votre sang, de votre corps, tout ça. C'est un sujet qui est très intéressant, mais je trouve que la première saison avait assez mal traité, en tout cas de mon point de vue, le sujet au profit d'une enquête policière qui était pour le moins banale. Je sais pas si t'as vu la première saison, Vincent. T'es relativement d'accord. Et ben, ça tombe bien. Et du coup, à l'époque, tout le monde avait apprécié. Moi, je me souviens sur Internet, tout le monde disait « Oui, c'est le nouveau Blade Runner, c'est incroyable, allez regarder ça !» Donc moi, j'étais là « Ouais, super, je vais aller regarder ça !» Et en fait, du coup, j'ai été extrêmement déçu, j'ai pas aimé. Visuellement, c'est sympa, les acteurs jouent super bien, il y a pas de souci. Mais passer la couche de vernis qui est installée sous nos yeux, c'est un peu nul. Du coup, j'avais été extrêmement déçu. Et quand j'ai vu que la saison 2 était sortie, 2 ans après, je me suis dit, est-ce que je laisse une deuxième chance ou pas à la saison, à la série. Est-ce que tu as laissé une deuxième chance, Vincent ?
Eh bien, tu m'apprends qu'une saison 2 est sortie. Donc
Elle est sortie la semaine dernière, je l'ai déjà entièrement regardée, du coup, ce qui montre que j'ai beaucoup de choses à faire chez moi. Et donc, du coup, je l'ai regardée, mais d'un regard un peu plus distant, si je puis dire, parce que je ne m'attendais pas à grand-chose. Et j'ai passé un très bon moment. Et c'est vrai. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en regardant sur Internet, à nouveau, j'ai vu que les gens avaient été très négatifs cette fois-ci. Les gens n'avaient pas aimé. Et oui, du coup, je me suis dit, c'est peut-être moi le problème, c'est moi qui ne suis pas en adéquation avec les gens autour de moi. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis questionné sur le principe de l'attente. Parce que c'est de ça dont on va parler cette chronique, c'est l'attente. Alors je sais, c'était une introduction qui est très très longue, mais bon. Qu'est-ce qui fait que l'attente va contribuer à rendre ou non une œuvre appréciable ? Et comme je ne suis en rien un sociologue, je vais me baser uniquement sur mon ressenti personnel en donnant 2-3 exemples à droite à gauche. Et après, si vous voulez, on pourra toujours en discuter. L'attente, donc. À chaque fois que je vais au cinéma, que je regarde une série, que je lis un livre, il y a toujours en fond, les quelques petits avis que j'ai pu lire ou entendre autour de moi. Et j'ai beau tenter d'en faire abstraction, ce sont souvent eux qui régissent parfois le fil de mes pensées, comme si je n'avais pas vraiment mon propre avis sur la question. Souvent, lorsqu'on me dit qu'un film est mauvais, très mauvais, que c'est quelque chose qui va être rabâché constamment partout sur Internet, à la radio, à la télévision, ça va baisser mes attentes. C'était le cas par exemple pour Batman versus Superman. Le film s'est fait descendre. Moi, je l'ai vu longtemps après tout le monde. De mon point de vue, il était donc biaisé par la critique. Et j'ai passé un excellent moment. Le film, il a des défauts, bien sûr, mais c'est loin d'être une grosse purge, comme tout le monde se prétendait à le dire à l'époque. Et ça marche aussi pour les bons films. J'ai l'exemple qui me vient en tête de Black Swan de Darren Aronofsky. Est-ce que vous l'avez vu ?
Oui.
Qui a aimé Black Swan ?
J'ai complètement aimé Black Swan quand j'étais ado.
Ouais.
Je l'ai revu peut-être 5-6 ans après et j'ai beaucoup moins aimé.
D'accord.
C'était un film qui m'a marqué à l'époque.
Bah, c'est justement ça, le fait que t'attends parce que tu veux le revoir et puis finalement... Bah,
c'est exactement ça, je pense. Qui d'autre avait vu Black Swan, du coup, tu l'avais vu, Raph?
Je l'ai vu, oui.
Et alors, t'as aimé?
Oui. Alors, quand je l'ai vu, j'étais aussi ado, comme Fanchon, et en fait, j'ai focalisé trop lorsqu'elle se grattait les ongles, etc. Et du coup, j'associe maintenant ce film à ça. Donc, du coup, je ne l'ai pas revu parce que c'est plus quelque chose de douloureux dans le sens où physique, vraiment, tu te fais du mal.
Je sais que tu n'aimes pas gratter les ongles.
Non, voilà. Clairement pas.
C'est une précision, oui. Et bien du coup, moi j'étais un peu comme vous, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il s'est fait encenser par tout le monde, on dit que c'était un chef-d'œuvre extraordinaire, et moi pour une raison inconnue, obscure, je sais plus trop pourquoi, je l'ai vu longtemps plus tard. J'ai quand même vu au ciné, mais genre 4 ou 5 semaines après qu'il soit sorti, donc du coup tout le monde m'a dit « va le voir, c'est incroyable », etc. Et j'y suis allé, et du coup, vous avez compris la logique, en gros, j'ai pas aimé, ouais, j'ai un peu détesté ce film. Je savais même pas dire ce que j'ai pas aimé dedans, c'est juste qu'en étant présenté comme parfait, instinctivement, j'ai cherché les défauts du film, et j'en ai trouvé forcément. Ce film parfait, qui était sûrement juste un bon film, est devenu un film passable et complètement oubliable pour moi. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, je me souviens même plus vraiment de ce qui se passe dedans. J'ai juste le ressenti qui reste, l'attente et la non-attente avaient détruit en somme une partie objective de ma critique. Oui. Du coup, quelle est la solution ? Moi, dans mon cas, c'est assez simple. J'ai essayé de plus lire de critiques avant d'aller au cinéma, et donc du coup, le problème, c'est comme on est submergé par des critiques, la seule solution que j'ai, c'est d'aller voir le film le plus rapidement possible. En gros, généralement, dès le jour de sa sortie. Sauf que ça marche pas vraiment. Pas toujours, quand il s'agit surtout d'un film très important, un film qu'on va attendre avec beaucoup d'impatience. Le point de vue sera à nouveau biaisé et même beaucoup plus. Et c'est là qu'on va parler d'un film, ou plutôt de plusieurs films. À votre avis, de quoi on va parler ?
Moi, j'ai une petite idée.
On pense à Star Wars, effectivement, bien joué, Raphaël. Alors, détrompez-vous, quand l'épisode 7 est sorti, c'est pas un mensonge, j'ai fait la queue au ciné pendant 2 heures et demie, avec des potes, pour être sûr de pouvoir être dans la première séance. L'attente, ça faisait, je sais pas, depuis qu'on savait qu'il allait sortir, que je l'attendais ce film. Il allait forcément être génial, c'était obligé. C'est un peu comme quand tu sais que tu vas manger une glace, mais que tu dois attendre extrêmement longtemps avant de l'avoir. C'est une allégorie qui est un peu chelou.
Ouais,
mais en gros, l'attente est tellement forte qu'en sortant de la salle, l'effet inverse de ce dont je parlais tout à l'heure, pardon, c'est produit en fait. C'est-à-dire que j'ai aimé le moment que j'ai passé. J'avais tellement attendu ce moment que je ne pouvais pas ne pas l'apprécier, sinon la chute aurait été beaucoup trop grande. C'est juste qu'en y réfléchissant petit à petit, les jours qu'on suivit, les mois qu'on suivit, l'esprit a déconstruit le mythe qui s'était créé lui-même, et j'ai fini par considérer Le Réveil de la Force comme étant un mauvais film. C'est presque un peu comme des étapes d'un deuil un peu chelou, d'une certaine manière. Mais pour le dernier film, L'Ascension de Skywalker, je n'attendais plus rien du tout de la saga, c'est-à-dire c'était mort. Donc du coup, généralement, quand l'attente est morte, on se dit qu'on peut plus être déçu, et du coup, on va quand même apprécier un petit peu le moment passé. Que nenni. Le film a été pour moi une souffrance à regarder du début à la fin. Même sans attente, le point de vue ne reste pas objectif, car je suis certain que même si j'ai pas aimé le film, il doit quand même avoir quelques qualités, mais je vous avoue, ça m'écorcherait trop la bouche de les donner. Des exemples comme ça, j'en ai à foison, ça marche avec Jurassic World, ça marche avec Alien, ça marche avec plein d'autres choses diverses et variées, je pense que vous en avez plein aussi. En fait, tout ça pour dire que l'attente, qu'elle soit forte ou nulle, tend à biaiser notre vision des choses. Et là, j'ai uniquement parlé de séries, de films, mais ça marche aussi avec n'importe quoi, le travail, la famille, les amours. Le problème étant qu'il n'y a pas vraiment de logique apparente à tout cela, puisque l'attente n'étant en fait qu'un facteur parmi tant d'autres qui fait qu'on apprécie ou non un bon moment.
Bah, bravo d'abord.
Ah, merci. Chronique.
Merci pour ce pardon. Bravo d'abord et merci.
Merci. Merci d'avoir mis des mots.
Est-ce que, là, j'ai mis des mots sur quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, donc du coup, si vous avez envie de parler un petit peu de votre propre notion d'attente, s'il y a des choses qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les faire partager.
Ben en fait, oui, je pense que ce que tu dis à la fin, c'est que ça marche pour les films, ça marche pour autre chose. Moi qui suis moins cinéphile, je dirais, j'ai moins ce problème-là.
Pareil.
Parce que, ouais. Mmh. Par contre, il y a un truc qui me fait écho, c'est à la fin quand tu dis, même quand t'attends plus rien, en fait, t'attends quelque chose. Parce que t'as l'espoir que ce soit quand même un peu bon et que tu vas profiter de ton moment en réalité. Et bon, pour Star Wars, visiblement, c'était pas le cas. Je peux pas te dire, j'ai pas vu. Donc, je peux pas donner mon avis. Si, mais je vais le voir parce que j'aurais pas payé pour aller au ciné.
Ouais, ouais. Je l'ai fait.
Mais oui, effectivement, moi j'ai des. j'ai ce sentiment pour d'autres choses qui vont me porter un peu plus pour. En art, en musique, parfois j'attends beaucoup d'un album et parfois t'es un petit peu déçu, même si les quatre précédents ont été bons, par exemple. Moins en cinéma, ouais, moins en série.
Bah, je pense que ça marche surtout sur les choses qui nous touchent de base, en fait. Ouais. C'est-à-dire que si t'aimes la musique, ça va plutôt marcher pour la musique. Si t'aimes le cinéma, ça va plutôt marcher pour le cinéma, en fait. Mais le principe psychologique doit rester probablement le même pour tout le monde.
Par contre, c'est difficile. On peut pas s'enlever de l'attente, en fait.
C'est impossible.
C'est totalement. En fait.
C'est aussi un peu le moteur de la vie, mais d'attendre quelque chose, d'attendre un truc bien, un truc cool. Hein. Et donc, du coup, c'est aussi ce qui fait que on a souvent parfois plus de déceptions, en tout cas plus d'illusions de déception que de choses positives, en fait.
Comme à Noël, quoi. À Noël, on est toujours déçu par les cadeaux qu'on a, alors que même que certains, on les attendait, on les a, et même quand on les a, on n'est pas content de les avoir, parce qu'on espérait autre chose, alors que c'est complètement de la poudre aux yeux, parce qu'au final, on les a demandé, ces choses, la plupart du temps. Voilà.
Alors moi, j'ai la solution pour ça. Voilà. Nous, dans la famille, on n'offre pas de cadeaux.
Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a une bonne solution.
Comme ça, au moins...
Enfin, c'est vrai que tu peux avoir le sens inverse, parce que l'attente, ça peut être aussi une bénédiction, dans le sens où ça va te permettre de prolonger ton bonheur. L'exemple le plus parlant, ça serait par exemple si tu étais dans un parc d'attractions et que tu devais attendre une heure pour faire un manège qui fait 2 minutes. Parce que tu sais que le manège, tu vas pas y rester longtemps, mais t'as toute une atmosphère, t'as les gens qui le font avant toi, t'as les gens qui partent et donc du coup tu vois qu'ils sont contents, donc tu te dis bah je vais être content, même s'il y a toujours le risque derrière de se dire ah bah je suis déçu, finalement il y avait bien 2 loopings au lieu de 3 et donc du coup bah c'est un peu moins fun. Mais je sais pas, il y a aussi l'ambiance, les gens qui vont te faire plus ou moins apprécier l'attente.
Après, c'est clairement un truc. On va rentrer dans les débats d'idéologie là si vous voulez, mais pour moi, l'attente, c'est un truc qui vient de notre siècle et de notre culture en fait. Ça peut pas, ça pouvait pas, tu peux pas avoir d'attente au Moyen-Âge, à la Renaissance, quoi que ce soit, quoi, parce que c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces par l'homme pour nous et par nous. Parce que ça fait vendre, et donc c'est clairement un des moteurs du capitalisme aujourd'hui, l'attente, puisque si tu veux créer de la hype autour d'un produit ou quoi que ce soit culturel ou pas, hein, d'ailleurs, hein, je veux dire, moi je suis hyper hypé par les nouveaux Dyson, là, les aspirateurs là, qui font tout seul, et pourtant, ouais, j'aimerais trop en avoir un, ça coûte super cher, voilà, mais si jamais un jour j'en ai un, je serai plus heureux du monde, il faut le savoir.
Et c'est pas vrai,
mais, alors qu'en fait, non, ouais. En fait, il va très bien, mon petit aspirateur qu'on m'a donné, que j'ai même pas payé, tu vois, mais c'est juste que voilà, tu te crées des désirs en fait avec ces attentes là et alors qu'en fait tu n'en as pas besoin, et alors que à des époques on était régi que par nos besoins, aujourd'hui on est régi par plus que nos besoins, on est aussi régi par les besoins qu'on s'est créés et qu'on nous a créés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est cette histoire d'attente, pour moi c'est un peu de la poudre aux yeux, c'est de l'illusion qui a été créée par cette société mercantile dans laquelle on vit. C'est très communiste de dire ça, mais bon voilà, ça a le mérite d'être dit.
Mais effectivement, l'attente, pour revenir sur Raph qui disait ça peut être positif aussi, je pense que c'est positif quand tu crées un projet et ou que tu as une idée pour toi, pour te nourrir toi-même de quelque chose ou pour créer quelque chose de tes mains. et qu'il te faut un peu plus d'argent, donc tu vas attendre patiemment de recueillir le budget, de pouvoir te poser, de rencontrer les bonnes personnes et tout ça. Et cette attente-là, elle peut être frustrante quand t'es en train de la vivre, mais elle va donner beaucoup plus de valeur à ce que tu vas réussir à faire à la fin. Donc c'est le seul moment où pour moi elle peut être bénéfique, c'est quand c'est ton ou toi le propre moteur, en fait.
Non, mais tu retombes sur ce que dit Marc, parce qu'en fait, l'attente, plus il y en a, plus tu vas penser dans ton subconscient que forcément ça sera mieux, ça sera bien. Parce que si tu fais un projet et que le projet il est mûri sur le long terme, etc., tu auras plus de temps et de manière générale, tu vas te dire bah, ça fait quand même un certain temps que je trimballe mon projet et du coup, il est quand même beaucoup plus performant. J'attends davantage parce que ça fait longtemps qu'on travaille dessus.
Non, mais quand je parle de trucs personnels, c'est pour te nourrir toi, c'est pas forcément un projet professionnel ou.
Mais tu vois, ça marche pour te nourrir toi dans le sens au propre comme au figuré, quoi.
Ouais, enfin, il y a des projets que tu gardes depuis longtemps et que t'as pas avancé, quoi, tu vois. C'est pas la longueur de l'attente qui va faire.
Tu peux le faire à tout, tu vois. Le fait de te préparer à bouffer, par exemple. Le fait de faire la chose toi-même, bah, tu perds du temps, certes. Enfin, c'est une notion de temps.
Le repas est meilleur, ouais.
Mais le repas est forcément meilleur parce que tu l'as mûrement réalisé. C'est toujours la même chose, en fait. C'est l'apport du temps. Le problème, c'est que c'est aussi une notion qu'on a depuis pas trop longtemps, en fait, le temps de manière générale. On a l'impression que si on fait pas quelque chose, on perd son temps. Exemple, moi, je vois beaucoup de gens qui sont assis sur des bancs. Quand je marche, je fais, mais ça sert à rien. Les gens, ils perdent leur temps. Je veux dire, ils regardent autour d'eux, ouais, mais j'ai l'impression que le temps, il fuit.
Ouais, peut-être qu'ils sont en train de méditer et qu'ils pensent à des choses hyper importantes.
Ah, je dis pas que c'est pas le cas. C'est juste une perception de l'attente qui est propre aux gens.
Peut-être qu'ils attendent rien sur leur banc.
C'est marrant parce qu'avant qu'on commence l'émission, vous m'aviez dit que vous aviez envie de parler des bancs tous les deux.
Oui. On a réussi. C'est ça qui va vous placer. Yes.
Okay. On peut continuer sur les bancs hein, si
non,
vous voulez.
Non, pas de soucis. C'est bon, les bancs publics, c'est vrai.
J'adore les bancs.
Les bancs de poissons qu'on a en train de
faire. Non, mais moi, du coup, je vais rebondir sur la préparation de nourriture. J'avais juste envie de vous poser une question. Quelle est l'importance de la nourriture dans vos vies?
Waouh.
Wow. Moi, elle est très haut placée. Après, bon, j'ai un contexte particulier. Quoi. J'ai ma sœur qui fait du maraîchage. J'ai mon frère qui était éleveur de chèvre, donc il faisait le fromage de chèvre. Donc ça fait, on va dire... Enfin, mes parents aussi, hein, ils nous ont toujours nourris avec des légumes, jamais des plats préparés, des trucs comme ça. Donc, j'ai été élevée comme ça, dans la bonne bouffe. Après, je suis espagnole, donc il y a aussi beaucoup de gras, et d'huile d'olive et d'épices. Mais bon, voilà, il y avait ça à la base. Mais depuis quelques années, c'est le plus important, en fait. C'est là-dedans que je mets le plus d'argent, en réalité. Parce que j'ai besoin de bien manger. Donc, les légumes, je les achète chez ma sœur. Je vais aller chercher à ne pas avoir de plat préparé et à préparer moi-même. Donc des fois, oui, ça prend une heure et demie à préparer. Mais je sais pas si bon, vous vivez avec moi pour certains. Donc vous m'avez déjà entendu dire « Putain, c'est trop bon !» À la fin, quand je finis, en fait, je suis trop contente de manger ce que j'ai préparé. Et en fait, c'est une joie que j'ai retrouvée. Et quand je me fais pas manger, là, ça faisait une semaine que j'étais en bad et que j'arrivais pas à manger ou je mangeais un repas sur deux, ben, je suis pas bien. Et en fait, là, de reprendre à refaire à manger, de prendre du temps, être en conscience quand je cuisine.
Donc ça influence tes émotions.
Ah, totalement, ouais. Totalement. Ouais. Et ça fait du bien, en fait.
C'est beau.
La malbouffe, ça me rend morose, en fait, vraiment.
Non, mais je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que, effectivement, c'est vrai que quand tu prépares un plat, t'es content, t'as préparé le plat, et à la fin, t'es heureux, quoi. T'as préparé ton plat de lasagne, ou tes pintiflettes, ou tout ce que tu veux, et c'est fantastique, t'as le truc en face de toi. Mais après, c'est vrai que moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que, effectivement, comme tu as dit, quand on va moins bien, généralement, on se nourrit d'une manière différente.
Ah ouais, totalement.
Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on se nourrit moins. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport avec la nourriture, ce qui fait que si je vais relativement très bien, je peux ne pas faire de plat, mais c'est juste que je vais manger plus sain, en fait, entre guillemets. Ou moins. C'est moi, par contre, quand je vais pas bien, à l'inverse, je vais même goinfrer. Donc, je vais me faire des plats qui vont être très très gras, je vais quand même me les faire parce que ça va créer de la satisfaction. Et le gras va créer, je sais pas, de l'endorphine, tout ce que tu veux, quelque chose que je vais pas avoir, que je vais être en manque. Et par contre, si je vais vraiment pas bien du tout, là, c'est le moment où je vais effectivement aller bouffer du kebab, du McDo. Alors, heureusement, on vit à la campagne, donc le McDo, il faut faire 40 minutes de route pour aller le chercher. Et ça, c'est une joie, mais à une époque où je vivais en ville, sans déconner, il y a des moments où moi j'étais pas bien et tous les soirs c'était un petit Deliveroo. Hein. je me bougeais même pas le cul pour aller chercher, on m'a amené mon truc à moi, et je bouffais comme un gras, je te fais ah, je suis une merde en mangeant mon truc, mais après j'étais quand même content, tu vois, enfin c'est... Donc après tout dépend, c'est-à-dire que la nourriture c'est à la fois quelque chose de positif, mais ça peut aussi être vecteur de quelque chose où tu vas, ça peut devenir une souffrance aussi, même en mangeant quelque chose qui va être bon, parce que virtuellement ce que je me prenais sur Deliveroo, c'était pas forcément de la merde, c'était pas le tacos du coin, je me disais quitte à me faire livrer un resto, autant me faire livrer un bon resto, mais du coup par contre c'était de la bonne nourriture, mais de la nourriture tellement grasse, et c'était juste par flemme de pas me bouger le cul moi-même pour faire des trucs que je pouvais être capable de faire aussi, parce que j'adore cuisiner, hein. J'ai un rapport avec la nourriture qui est très, très chouette, ça me vient aussi ça de mon père qui cuisine beaucoup. Et aussi du fait que lui, il est chimiste, et que mine de rien, chimie et cuisine, ça va souvent un peu de pair. Et moi, je n'ai jamais fait chimie, mais par contre, du coup, j'ai appris à cuisiner grâce à ça.
Par contre, je préfère partager la nourriture.
En fait...
Elle a raison.
Ici, là, par exemple, on vit à trois dans la coloc. On mange rarement ensemble. Alors, je dis pas de manger tout le temps ensemble, ça c'est pas un souci. Mais c'est quelque chose que je remarque quand j'étais avec ma famille ou en couple. Partager un repas, c'est... Tu manges différemment en fait. Déjà, tu manges moins vite, tu prends le temps. Alors que quand tu entends tes propres couverts, quand tu manges à l'arrache, tu reposes ton assiette et puis
mais
c'est
terminé. Mais tu prépares différemment aussi.
Ouais, tu parce que tu prépares pareil, aussi pour l'autre et tu fais attention à ce que tu vas mettre. Puis je sais pas, il y a une odeur dans la maison, c'est quand même hyper chaleureux la cuisine. Et soit dans les boulots, soit dans le stress un peu ambiant de notre société, parfois on n'a pas le temps de prendre le temps de cuisiner. Moi ce que j'essaye de faire, c'est que quand j'ai mes légumes, je les cuisine tous. Et puis, comme ça t'as moins à préparer et que ça dure moins longtemps, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde selon le boulot qu'on a. Et je trouve que c'est un peu triste en fait qu'on prenne pas le temps de bien cuisiner et surtout de partager le repas, parce que moi je peux avoir une spécialité, je la fais partager aux autres, et puis inversement il y a un échange culturel, il y a des goûts que t'aurais pas, enfin des associations de goûts que t'aurais pas faites. À midi on était cool, on était tous autour de la table,
c'était bien, ce que j'allais dire, c'est sympa quoi.
En fait, ça fait du bien, mais surtout on n'a pas mangé on a mangé différemment, c'est pas goinfré quoi, on a mangé chacun notre part et puis c'était... Tu vois ce que je veux dire, c'est moins boulimique, je trouve.
Mais non, mais justement, parce que le repas, c'est aussi... parce que là, on parle, depuis qu'on a commencé le sujet, c'est surtout le repas dans un cadre solitaire. Moi, je fais comme ça la plupart du temps, etc. Et c'est vrai que quand tu parles de manger avec d'autres personnes, forcément, ça change le cadre. C'est-à-dire que tu vas parler avec les gens et... Je pense que déjà la majorité des personnes qui me connaissent savent que je mange très très lentement. Et du coup, au boulot, ça me permet aussi de voir des gens sur plusieurs couverts. Je suis à l'entrée, ou je suis même au plat chaud, et puis les gens vont me rejoindre sur le dessert. Enfin, et donc du coup, c'est aussi une manière d'échanger. C'est-à-dire que tu as une personne en face de toi, tu parles, la personne s'en va, c'est pas grave, il y en a une autre qui revient, et puis voilà. Ça, c'est un côté pratique aussi.
De manger doucement.
De manger doucement, déjà, de manière, c'est plus sain.
Déjà, ah oui, c'est clair. C'est
beaucoup plus sain de manger, lentement.
Ouais,
moi, je sais que j'étais considéré dans la famille comme l'escargot de service, parce que je mangeais très lentement. Et en fait, vous voyez, regardez ce corps d'athlète que vous voyez devant vous, là, il est quand même, voilà. Mais c'est vrai que c'est très important de pas avaler, de bien mâcher, de pas tout gober. Et du coup, le fait d'être autour de la table, ça te ralentit, en fait. Le fait de pouvoir parler, de pouvoir marquer des pauses, en fait, dans ton repas.
D'avoir une interaction sociale.
Ouais, en fait. C'est hyper important.
Puis même dans la préparation, hein. Je te regarde toi.
Pourquoi tu me regardes moi? Parce que je prépare des trucs.
Mais il y a des fois où tu vas venir poser la casserole, remonter, faire un truc, revenir quand l'eau boue, si tu fais des pâtes, tu vois.
Ouais.
Et t'es pas dans ta conscience du repas que tu vas te préparer. Ça va être le moment, ça va être la préparation de ton plat au moment où il est dans ton assiette, tu vois, que tu vas y mettre du cœur et de la conscience. Mais je trouve que c'est dans toutes les étapes de cuisson qu'il faut, il faut te préparer un moment pour ça, parce que ça va être pour toi, dans ton corps, tu vois. Je sais pas comment.
Attends. Non, mais ok, je vois ce que tu veux dire.
Je dis pas qu'on va pas perdre du temps dans une cuisson d'un truc, tu peux faire autre chose. Mais Mais quand, ouais, non, mais j'ai l'habitude de le faire.
J'entends bien, mais je vois ce que tu fais quand tu fais des pâtes. On est d'accord que tu mets l'eau à bouillir, que tu te casses, tu vas regarder une vidéo.
Je vais regarder une vidéo après. Après, je redescends. Alors, quoi. Sinon, je m'emmerde à regarder la bouilloire dans des yeux pendant 10 minutes.
Super. Bah, en fait, c'est aussi ce que je fais, mais des fois, quand il y a des gens, en fait, quand j'ai des invités à la maison, quoi que ce soit, même si c'est pour faire des pâtes, bah, je reste devant mes fourneaux.
Ah oui, non, mais ça, c'est différent. Ouais. Pour moi, il y a deux choses. C'est le quand tu reçois et quand tu es tout seul.
Ouais.
Quand tu es tout seul, tu peux faire d'autres choses. Enfin, est-ce que tu t'en fous un petit peu parce que toi, tu vas juste manger ton truc et après, tu vas regarder. Bah, à tout hasard, Narcos devant, voilà, comme par hasard, et puis après, tu t'en fous, c'est juste une fonction d'avaler. Par contre,
Du coup, tu prends pas la nourriture comme quelque chose qui va te nourrir, tu prends, enfin, c'est non, juste moi, c'est vital.
Mais c'est vrai que, comme ce que disait Raphaël tout à l'heure, effectivement, la nourriture, quand tu la partages avec d'autres personnes, elle prend un autre sens, elle prend un sens plus social en fait, et plus sympathique aussi.
Et toi, franchement, parce que tu poses la question mais tu réponds pas.
C'est vrai, en fait, pourquoi tu lances ce sujet en fait?
C'est pas mon problème, moi, je me pose une question.
Moi, je mange pas.
Je rebondis.
rebondis. Tu peux poser une autre question,
la déprime, les sentiments, tout ça.
Ouais.
Moi, j'ai tendance à pas manger quand je suis déprimée. Parce que justement, ça... enfin, la nourriture, pour moi aussi, c'est un plaisir. Et du coup, quand je suis déprimée, j'ai pas forcément envie de me faire plaisir.
en fait, de toute façon, il y a deux écoles qui existent vis-à-vis de la nourriture. T'as les gens qui, quand ils sont déprimés, ils vont arrêter de manger parce qu'ils ont plus envie de se faire plaisir. Et t'as les gens qui, quand ils sont déprimés, ils vont manger encore plus pour se faire du mal avec quelque chose qu'ils aiment, tu vois. Moi, c'est
Du réconfort.
Non, mais t'as le côté, effectivement, de manger plus quand t'es pas bien, mais au contraire, justement, de manger, mais justement parce que t'as le côté réconfortant de manger aussi.
C'est
du bien, et tu penses à autre chose. Effectivement, pendant que tu cuisines, au moins, tu te vides les idées. Pendant que tu cuisines, tu fais autre chose. C'est sûr que, bon, moi, le premier, hein, moi qui fais rien en ce moment, qui suis tout seul, bah, je fais des pâtes à longueur de semaine, pratiquement tout le temps, et du coup, c'est chiant. Mais du coup, il faut que je continue à bouffer les mêmes pâtes que la veille, et au final.
Non, mais
c'est presque sacré le moment de faire à manger. C'est, tu vas nourrir ton propre corps pour qu'il aille. C'est pareil que d'aller en forêt quand tu dis ah bah tiens, je vais faire un tour. Il faut y aller en conscience, sinon juste sortir, faire le tour de ton quartier et revenir, ça t'a pas fait du bien si tu t'es pas dit c'est pour moi que je le fais, c'est pour respirer, pour aller voir. Tu vois. Et je pense que donner plus de valeur à un moment. Enfin, tu te chéris toi-même quand tu te fais bien à manger, je trouve. C'est te faire du bien, c'est t'apporter à toi quelque chose. Et quand moi, je vais mal, quand je vois que ça fait une semaine que j'ai mangé que des pâtes ou que j'ai pas mangé, mais j'ai tendance à me dire, ok, non, va au fourneau, achète-toi des légumes. Ou légumes, si moi, je mange sain, mais après, tu peux manger autre chose, quoi. Mais juste, tu prends le temps, t'es là avec toi-même et c'est sur toi que tu le fais, quoi. Mmh. Ou des lasagnes. Il y a des trucs bons dans les lasagnes. Il y a tout qui est bon dans
tout
les lasagnes.
Tout est bon. Ouais. D'avoir le fromage.
Non, même juste, dessus, même juste faire des... Enfin, tu vois, par exemple, l'autre jour, là, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait une insomnie de ouf. Et je me suis réveillé à 6h, j'ai fait des crêpes.
Ouais.
6h du matin.
Attends, quand
C'était dimanche dernier.
Putain, moi, c'était avant-hier.
Incroyable.
On est connecté,
mec, on se tape des insomnies comme ça, là. Là, je te jure,
t'as fait des crêpes aussi, toi?
Non, je me suis levé à 5h du matin et j'étais comme ça dans mon lit, j'attendais qu'Alice se réveille. Comme ça.
Ah, mais il n'y avait aucune comparaison.
Parce que moi, une insomnie, j'en ai plus une il y a deux jours, quoi.
Mais comment ça se fait que tout le monde fasse des insomnies comme ça?
Bon, il y a deux jours, c'était la pleine nuit.
Ah, bah voilà, bah, c'était ça. Bah, parce que c'était il y a deux jours. Bah, c'est ça, en fait.
Ouais, voilà. Vachement, mais il y a deux jours.
Non, t'es un loup-garou, en fait, t'es parti.
Et bah, du coup,
personne n'a disparu dans le village.
La pleine lune, si vous voulez.
On va parler du rapport avec le sommeil, des gens.
Très actuel, ça.
Vous dormez bien, vous.
Quelle est l'importance du sommeil dans vos vies?
Combien d'heures dormez-vous par jour? Attention, les heures subites sont aussi importantes que les heures que vous octroyez vous-même.
6h30. Tu dors 6h30 à 7h. Ouais.
6h30 à 7h, moi pareil en ce moment.
Ouais. Mais pas, moi ça fait quelques années en fait que je me rends compte que j'ai beau me coucher à pas d'heure ou tôt, je me lèverai toujours 6 ou 7h après.
Bah, c'est un peu la même chose. Avant, j'étais plutôt sur du 8-9, mais là, depuis, depuis quelques mois, je suis passé sur du 6-7, et c'est un peu chiant parce que je me réveille toujours autant la nuit, donc en fait, je dors pas énormément.
Ouais.
Pour ou contre le pyjama?
Est-ce que t'avais vraiment prévu cette question? T'avais prévu le fil du truc?
Tu as vu un grand blanc?
Totalement contre.
Complètement
là,
pour.
Là, il y a le truc, mais...
Contre le pyjama.
Moi, je suis très pour le pyjama.
Contre le pyjama?
Ah ouais.
C'est trop. Alors, qu'est-ce que t'appelles un pyjama, la définition du pyjama?
Alors que...
Un habit qui te couvre pendant la nuit.
C'est ça ou pas? C'est un habit qui te couvre pendant la nuit.
Bah oui.
Ouais, moi j'aime bien le pyjama.
Enfin, tu veux un pyjama entier?
C'est un vêtement que tu utilises seulement pour dormir.
Pour dormir. Ouais. Moi j'utilise des survêtes et des vieux t-shirts pour faire ça. Est-ce que ça marche ou pas?
Oui, c'est
oui, bah, pour moi. J'aime les pyjamas alors.
Ok.
Alors oui. Enfin non, je...
En gros, la question c'est qui dort nu ou qui dort habillé, quoi, plus ou moins.
Oui, mais bon.
Le pourquoi, ou c'est par rapport à celui qui est en face de toi qui porte un pyjama, ou c'est juste nous envers nous-mêmes si on doit porter des pyjamas ou si on est pour ou contre.
Je sais pas, moi, tu dis ce que tu
attends, mais attends, est-ce que j'accepte que mon
pote, question,
que mon... la personne qui partage mon lit soit en pyjama?
Non, mais de toute façon, t'as rien à dire
non,
sur
mais
la
c'est
personne
globalement,
qui partage ton lit.
S'il
a envie d'avoir un pyjama, il a un pyjama.
Ah oui, bien sûr, bah, c'est oui, plus pour toi, oui.
Ah non, j'aime bien ne pas en porter. Voilà. par contre,
je sais pas.
Par contre, quand je me lève, forcément, j'en mets un pour traîner.
En fait, j'ai un pyjama. De... T'as un habit de après-réveil, quoi. Ou de
avant-réveil, avant de coucher. Et puis,
on appelle le chill.
Le chill, bien sûr.
Le pantalon de chill, ça c'est important.
Et d'ailleurs, mais non, mais tu vois, c'est quand même important parce que tu vois, la dernière fois, vous me racontiez l'anecdote de votre boîte d'allumettes qui cramait.
Ouais.
Bah, quand tu dors à poil, c'est chiant parce que tu dois t'habiller si jamais tu dois partir en urgence ou quoi que ce soit.
Ça, c'est vrai.
Ouais.
Mais non, mais si j'avais senti le cramer, je serais sortie toute nue.
Oui, mais attends, tu sors toute nue la nuit et tout, tu crèves pas du feu, mais d'hypothermie. C'est sûr, c'est chiant. c'est chiant. Non, mais c'est
non,
vrai.
Mais on peut on peut se réchauffer, on peut trouver un endroit où tu peux te caler,
Ah bah, tu pourras te réchauffer dans ton salon s'il brûle, effectivement.
Mais non, mais devant la maison, c'est
bon. Oui, bah, je suis bête.
C'est un feu de joie, c'est bon.
Mais du coup, attends.
Et les pompiers, ils arrivent forcément avec des couvertures de survie, donc c'est bon.
Est-ce que t'es la seule personne dans cette table qui préfère dormir nu qu'avec un pyjama, du coup, ou est-ce qu'il y en a d'autres?
Ben, moi, c'est moitié-moitié.
Ça dépend.
Le t-shirt, c'est
en, okay. En été, par exemple, j'ai tendance à plus dormir à poil, effectivement, ouais. Mais c'est en été parce qu'il fait hyper chaud.
Ouais.
Mais après, en hiver, je viens dans mon pige, quoi.
Bah, alors, moi, j'aime pas porter de pantalon ou de bas.
Ah, voilà, c'était ça la question. À poil, poil, ou à poil avec un slibard ou un shorty?
Ah oui, est-ce que le slibard fait partie du
pyjama? Voilà, c'est ça. Est-ce que ça fait partie?
Parce que juste avoir un slip, c'est comme avoir un pyjama ou pas?
Moi, c'est pareil. En été, je porte juste avec un slip.
Si t'as un pyjama, pour moi, un pyjama, c'est que t'as
rien en dessous.
T'as soit, au choix, t'as un pantalon et un t-shirt ou un truc comme ça, dans le genre. Ou une robe de nuit avec son vêtement, mais quelque chose par-dessus, quoi. Et si t'as pas de sous-vêtements, bah, c'est soit tu dors nu, soit tu dors avec des sous-vêtements, mais tu considères pas les sous-vêtements comme un pyjama.
Non.
Parce que tu le portes la journée aussi, tu vois.
Oui.
Sinon, tu porterais un pyjama plus des vêtements.
Bah, moi, la dernière fois, je suis allé faire mes courses en pyjama. Enfin, en pyjama, avec cet habit de chill.
Vas-y, c'est
donc pas un pyjama.
Non, mais j'aime pas dormir avec quelque chose. Je préfère. Et en plus, je me réchauffe plus vite en hiver si j'ai rien que si j'ai un pyjama.
Mais ça, c'est tout le monde. Ça, c'est mathématique.
Et ce qui fait que, ben voilà, quand j'ai un peu froid, au moment où je vais me coucher, j'ai un petit peu froid, je préfère tout enlever et me chauffer direct. C'est mon corps, c'est ma chaleur, c'est très bien.
Alex, sinon, t'avais un truc à raconter, je crois.
Ouais, alors moi, je voulais vous parler un petit peu musique, hein, évidemment. Pour ceux qui me connaissent, ça paraît assez logique. Moi, je voulais vous parler. Bah là encore, ça paraît logique, d'un album de Pink Floyd, sorti donc en 1979. C'est The Wall, certainement l'un des albums le plus connu. Pourtant, Pink Floyd, pour rappel, c'est un groupe qui était formé à Londres en 1965 par Syd Barrett, donc à la guitare et au chant, Roger Waters à la basse, et au chant, Nick Mason à la batterie et Richard Wright au clavier. Et au cœur, accessoirement aussi. Alors, déjà, Pink Floyd, vous savez ce que ça veut dire?
Je m'appelle Rose. Plus, je suis déçu.
Rose, ouais.
Non. Alors, justement, Pink Floyd, toujours les flamants roses, non.
Ouais,
non, parce que flamant rose en anglais, c'est flamingo, hein, comme en espagnol. Donc, non, c'est pas ça du tout. En fait, ça vient de deux musiciens de blues, en fait, qui sont certainement considérés, je crois, comme les plus grands musiciens de blues, voire même les hommes fondateurs un peu du blues. On a Pink Anderson et Floyd Council. Donc j'ai pris les deux prénoms, ça fait Pink Floyd en fait, tout simplement.
Donc c'est un hommage.
C'est un hommage, voilà. Alors, à la base, c'était The Pink Floyd Sound, et rapidement, c'est devenu juste Pink Floyd en fait. Voilà, ça c'est pour la petite intro. Donc le premier album de Pink Floyd, sorti d'ailleurs en 1967. Donc c'était The Piper at the Gates of Dawn. Alors ensuite, bon, il y a eu beaucoup de soucis avec la drogue, hein, dans le groupe, notamment beaucoup de LSD, beaucoup d'acide, etc. qu'on puisse sortir. Tiens donc. Et ensuite, On a notamment Syd Barrett, hein, qui est l'un des membres fondateurs, qui avait des gros problèmes là-dedans. Donc on a fini par le dégager un petit peu tout doucement du groupe en 68. Il y a David Gilmour qui l'a remplacé temporairement. Donc ils ont fait un album dans lequel les deux étaient présents un peu par intermittence. Et au final, après, à partir du troisième album, Barrett était complètement évincé. Et c'est Gilmour qui l'a remplacé. Donc là, on est en 68. À partir de là, on a un changement de style qui commence à apparaître un petit peu, donc du rock plutôt psychédélique, on va passer sur un rock plutôt ce qu'on appelle progressif. Alors là, il y a plein de choses à voir, on pourra en discuter une autre fois, mais là, sinon on fera des heures pour ne serait-ce que pour parler du rock progressif, donc on pourra en parler un autre jour. La consécration vraiment du groupe, par contre, elle arrive en 73, avec le célèbre album The Dark Side of the Moon, pour le coup, la fameuse pochette noire avec le prisme de lumière, hein, qu'on a tous vu une fois. Donc ça, c'est le 8e album du groupe. C'est un peu un monstre au niveau des ventes, parce qu'il est resté quand même plus de 12 ans consécutifs en tête des ventes. 18 ans au total, mais 12 ans consécutifs, c'est énorme, quoi. Ça n'a jamais été fait. Je crois qu'il y a Queen une fois qui a dû faire peut-être un peu plus, un album de Queen qui a fait un peu mieux, je crois, une fois, mais sinon c'est vraiment rare. C'est de tous les temps, de toute l'histoire de la musique, c'est le troisième album le plus vendu de tous les temps. Le premier étant Back in Black de AC/DC et Thriller, facile, de Michael Jackson, bien évidemment. Non, pas les Beatles, les Beatles on fait moins bien, tu vois. Il doit pas être loin derrière, remarque, il doit être en 4e position, un truc comme ça, je crois que je regarde. Mais non, en tout cas, c'est le 3e album le plus vendu de tous les temps. Et donc après, 6 ans plus tard, donc arrive en 79, donc leur 11e album pour le coup, The Wall, auquel je vais m'intéresser un petit peu aujourd'hui, qui est considéré comme le dernier grand succès du groupe. Ils ont sorti quelques albums un petit peu après, mais c'est vraiment considéré comme le meilleur, en tout cas le dernier meilleur album. Après, c'est un peu des échecs commerciaux, puis ça devient de moins en moins intéressant. Bon, c'est autre chose.
C'est subjectif, ça, non ?
C'est subjectif, mais oui et non, la musique est vraiment pas pareille, le style est vraiment différent. C'est subjectif, oui, parce qu'effectivement, j'en parlerai en conclusion, mais l'album qui a suivi The Wall, qui est vraiment un échec commercial, moi je l'adore, c'est certainement peut-être mon préféré de Pink Floyd, peut-être justement parce que c'est le moins aimé, peut-être aussi, c'est peut-être ça aussi qui joue, mais voilà. Pink Floyd, The Wall, pardon, c'est pour contextualiser un petit peu le projet, le principe de l'album, c'est ce qu'on appelle un opéra rock, hein, donc c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire à travers les morceaux du groupe. C'est un peu comme si c'était une sorte de comédie musicale rock, en gros. L'idée, d'où c'est venu, donc c'est en 77, lors d'un concert à Montréal. On avait un public, c'était n'importe quoi, c'était le bordel, ils arrêtaient pas de hurler, il y avait aucun respect, enfin subjectif, mais aucun respect pour le groupe, soi-disant, selon les musiciens. C'est à tel point qu'on avait un des spectateurs, notamment dans la fosse, qui faisait tout pour perturber le concert, etc. Et du coup, Waters s'est énervé, il lui a craché dessus, en fait.
Ah,
ouais. C'est ça, il lui a craché dessus. Ça a tellement galé. Et du coup, ça va plus loin. Du coup, il le dit lui-même qu'il a imaginé, rêvé qu'il y ait un mur qui se fasse entre lui et le public, en fait, pour être tranquille, pour plus avoir à supporter ces connards, hein, comme qu'il pourrait dire. Donc voilà un petit peu jusqu'où ça va. Donc voilà, le mur, hein, qui l'entoure, qui le sépare, voilà, ça commence à germer un petit peu. Alors justement, après il va profiter que l'intégralité des autres membres du groupe partent en vacances ou autre, et du coup il va, lui, Waters, composer l'intégralité des titres de l'album, tout seul, sans en parler à personne, hein, ce qui ça plaît pas forcément aux autres, forcément, ils sont pas super contents que le mec il ait fait tout dans son coin sans en parler. Du coup, on a des situations assez drôles quand le titre assez célèbre Another Brick in the Wall, la partie 2, qu'on entend tout le temps à la radio, etc. C'est certainement le titre le plus connu de Pink Floyd. Il est très très court, hein, au final. On a un morceau qui dure, je crois, peut-être 2 minutes à peu près, donc c'est vraiment rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, les musiciens étaient tellement vénères de ne pas avoir été consultés pour le projet qu'ils ont fait minimum syndical. Ils ont fait 2-3 accords comme ça, tac tac, et c'est bon, démarre-toi avec ça. Vraiment. Pour ça, on a peut-être 3 phrases qui sont mises en boucle dans la chanson de façon à l'allonger. On a le cœur d'enfant qui a été rajouté après, pareil, de façon à l'allonger. Et encore, cœur d'enfant, on a pris les 3 gamins de l'école d'à côté, et on a dupliqué le son 12 fois pour avoir un effet comme s'il y avait vraiment plein de monde, alors qu'en fait, il y a personne. Enfin, voilà. Donc, ça donne des situations assez cocasses, pour le coup. Alors, pourquoi cet album en particulier? Parce que le concept est assez cool, en fait. C'est ça dont je voulais parler principalement. C'est l'histoire que raconte justement cet album. En fait, ça va raconter la vie d'un anti-héros qui porte le nom de Pink, tout simplement. Tiens donc. Alors, déjà, il a une vie qui débute vraiment mal. Il y a son père qui meurt à la guerre, comme d'ailleurs le père de Waters, qui a composé donc l'album. Du coup, sa mère qui devient surprotectrice, ça me donne des phrases dans certaines chansons. Cette phrase, par exemple, « Of course, mama's gonna help build the wall », donc « Bien sûr, maman va t'aider à construire ton mur ». Ou encore cette phrase « You'll always be a baby to me », donc « Tu seras toujours un bébé pour moi ». Donc, c'est des situations assez étranges quand même. On va dire la surprotection de la mère. Donc il y a ça, après il y a les enseignants aussi qui le tyrannisent vraiment tout le temps, qui sont plus intéressés par la discipline plutôt que l'éducation. Ils cherchent vraiment à le faire rentrer dans un moule, dans le même moule que tous les autres. C'est pour ça qu'on a souvent cette image assez récurrente dans je sais pas si vous avez vu les différents clips, etc. Mais souvent on a cette image d'un hachoir à viande, ou des gamins qui sont tous ensemble dans le hachoir à viande et qui sont pressés comme ça, parce que vraiment ils sont tous ensemble, ou l'instituteur qui est représenté comme un marteau aussi. Donc c'est pour ça, tout ça. Et donc pour fuir un petit peu tout ça, pour fuir un petit peu toute cette situation, et ben il va finir par se réfugier un peu dans un univers qu'il va créer dans son esprit. Et il va justement bâtir dans son univers imaginaire, il va bâtir tout un mur imaginaire, encore une fois bien sûr. Et en fait, chaque traumatisme de sa vie deviendra une brique de plus dans son mur. On a cette phrase qui revient régulièrement dans différents morceaux de l'album. All in all, it's just another brick in the wall. Donc, tout n'est jamais rien qu'une brique de plus dans le mur. Alors après, bon, sa vie, elle continue un petit peu comme ça, malgré, bon, son mur qui se construit dans sa tête. Il finit par devenir une rockstar, il va se marier, mais bon, classique, il va s'éloigner un petit peu de sa femme, et du coup, elle va finir par le tromper. Et ça, vraiment, ça constitue l'ultime brique de son mur. Vraiment, c'est là que ça devient un peu n'importe quoi. Il va s'enfermer dans la folie, dans la dépression. On a un titre qui s'appelle Goodbye Cruel World, I'm Leaving You Today, donc adieu mon cruel, j'en vais aujourd'hui, je vous quitte. On a le titre aussi qui est assez dingue, One of My Turns. Donc One of My Turns, on pourrait le traduire par encore un de mes épisodes, une de mes crises. Où il y a plusieurs phrases qui sont marquantes dans ce titre. On a Night After Night, We Pretend It's Alright, donc nuit après nuit, on prétend hein, que tout va bien. I feel cold as a razor blade, je me sens froid telle une lame de rasoir. Ou encore, alors, effectivement, dans cette chanson, dans l'histoire, en fait, il rentre d'un concert avec une groupie qu'il a récupérée comme ça. Et puis il pète un câble d'un seul coup, et non, il dit cette phrase. Run to the bedroom, in the suitcase on the left, you'll find my favorite axe. Donc, cours dans la chambre, et dans la housse que tu trouveras sur la gauche, tu trouveras ma hache préférée. Voilà. Donc, on voit un peu le personnage qui est pas forcément super bien dans sa tête. Bon. La vie doit continuer quand même, il y a quand même ses concerts à assurer, etc. Donc, on a son médecin, son manager qui vont lui faire différentes injections. On a ce titre The Show Must Go On hein, qui est facile à traduire. Ces injections le font complètement halluciner, le font complètement triper, et il va se finir par se prendre pour une espèce de dictateur fasciste. Et ses concerts, ça devient des espèces de prestations néo-nazies en fait. Hein. C'est vraiment dingue. Ça devient vraiment dingue. On a par exemple dans le titre In the Flesh, on le voit dans le film dont je parlais dans un instant, on le voit qui est vraiment, il a le crâne rasé, il a tout un uniforme, et on le voit qui harangue une foule dans une salle, et il incite à aligner, je cite, aligner contre le mur les juifs, les gays, ce qu'il appelle les coons. Donc coon en anglais, c'est certainement le mot le plus insultant pour les noirs, les nègres, hein, pour le coup, clairement. C'est certainement plus insultant que ça. Donc tous ceux qui sont présents dans la salle, tous ceux qui, je cite, ne sont pas comme lui. Et on a deux titres également, donc Run Like Hell et Waiting for the Worms, dans lequel il va inciter en fait à traquer et à éliminer toutes ces personnes-là. Ça s'inspire un peu de la nuit de cristal qui s'est passée en 1938. Petite anecdote, dans le film, ce sont de vrais skinheads qui ont été utilisés pour jouer, et ce qui était apparemment assez dingue du coup, parce que pour contrôler les skinheads sur un tournage, c'est un peu dingue parce qu'ils n'étaient pas capables de simuler les coups qu'ils donnaient, par exemple. C'est vite devenu le bordel, bon bref.
Ah, les figurants, ils sont contents.
C'est ça.
Ouais, c'est pour plus de réalisme.
C'est ça.
C'est pour l'art.
Alors après, ce qui se passe, c'est que dans sa conscience, ça va pas se passer comme ça. Finalement, sa conscience elle-même va finir par se révolter, à vouloir arrêter tout ça. On a ce titre, on a une phrase qui ressort. I wanna go home, take off this uniform and leave the show. Donc je veux rentrer chez moi, enlever cet uniforme et quitter le spectacle. Et puis, sa conscience va du coup le soumettre à une sorte de procès fictif dans sa tête, où on voit défiler son maître d'école, son ex-femme, sa mère, en tant que témoin. Et finalement, le juge va ordonner finalement la destruction du mur et le condamner à être exposé au monde réel. On a cette phrase, la dernière phrase du titre The Trial, donc le procès. I sentence you to be exposed before your peers, donc peers, deux ERS, donc vos pairs, hein, pour le coup. Je vous condamne à être exposé à vos pairs, aux autres. Tear down the wall, faites tomber le mur. Voilà un petit peu pour la toute anecdote du film, de l'histoire. C'est là, The Trial, c'est le dernier morceau de l'album. Donc ça termine là-dessus, où il retrouve le monde réel un petit peu malgré lui. Donc voilà pour le film. Au niveau des représentations des tournées qu'on suivit, il y a quelques histoires sympas. Notamment entre 80 et 81, c'est là qu'on a eu la tournée de l'album, il y a eu très peu de représentations, peut-être en 30-40 en un an, donc c'est très peu. Pourquoi ? Parce que le matos était énorme pour le coup, c'est des grands shows, il y avait des grues, des marionnettes géantes, il y avait des techniciens qui construisaient un mur au fur et à mesure sur scène, donc Waters du coup récupère son rêve d'avoir un mur qui était par du public.
Waouh.
Attends, c'est-à-dire que le mur était construit entre lui et le public ?
Ouais, sur toute la scène en fait, il finissait par...
Il crée son délire...
Ah ouais, complètement, c'est à tel point où Waters finissait carrément par lâcher sa basse en fait et jouer le personnage de l'album sur scène en fait.
Okay. Ah ouais.
Ça donnait une représentation assez dingue en fait.
Mais qui faisait la basse du coup ?
Je ne sais pas, mais ouais, ça devait être, il va y avoir un autre musicien, ou ouais, probablement, ouais.
En playback, ouais. Le playback de Pink Floyd, ouais.
On a le 21 juillet 90, pour fêter les 1 an de la chute du mur de Berlin, on a Waters, qui était depuis évincé du groupe entre-temps, notamment à cause de son ego, était évincé du groupe, et à Berlin, il a fait ce qu'il a réussi à garder les droits de l'album, parce que c'est lui qui a tout composé, du coup, quasiment, il a fait une représentation spéciale pour fêter, je vous dis, l'anniversaire de la chute du mur, et donc tout l'album a été joué avec des invités comme Scorpions, Cyndi Lauper, Sinead O'Connor, j'en passe. Et il a refait une tournée dans les années 2010, je crois, si je dis pas de bêtises, ça va être en 2011, 2012, un truc comme ça. Il fait toute une tournée mondiale assez dingue, et le dernier spectacle c'était au Stade de France en fait. Et puis pour clôturer, je vous parlais d'un film tout à l'heure. Alors je disais que l'album est sorti en 79, effectivement en 82, l'album est adapté en film. Donc c'est une adaptation cinématographique qui est sortie, donc je vous le disais, en 82, réalisée par Alan Parker, donc le réalisateur entre autres de Midnight Express, avec dans le rôle de Pink Bob Geldof, qui est un chanteur britannique qui est notamment le créateur des Live Aid. Si vous avez vu Bohemian Rhapsody, on parle beaucoup des Live Aid, hein, le fameux concert à Wembley, c'était pendant premier Live Aid. Donc c'est Live Aid, hein, c'est des concerts à but caritatif, hein, je crois que normalement c'est pour la fin dans le monde, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et on a plusieurs scènes du film qui sont en fait des scènes d'animation, qui elles sont réalisées par Gerald Scarfe, qui est un dessinateur et un caricaturiste anglais. On a beaucoup de formes assez, évocatrices dans les scènes d'animation qui sont assez étranges, hein. On a étrangement des fleurs à forme plutôt arrondie, dans lesquelles vous rentrez des fleurs à la forme plutôt fine. Le juge dont je vous parlais à la fin, c'est littéralement une paire de couilles avec des jambes en fait. Voilà, c'est assez dingue pour le coup. Faut le voir au moins une fois dans sa vie. Après, on en pense ce qu'on a envie d'en penser, mais je pense que c'est un film au moins à voir. C'est un concept particulier en tout cas. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, hein, sur ce thème un peu particulier qui vous est considéré certainement comme le dernier gros succès de Pink Floyd, en tout cas commercial. Je sais pas forcément mon préféré. J'en ai parlé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il est vraiment intéressant à étudier. Pas mon préféré personnellement. Je vous dis si je devais en choisir un, ce qui va être compliqué. Mais si je devais en choisir un, ce serait certainement le suivant. Donc leur 12e album qui est sorti en 80, je crois, quelque chose comme ça, ou 81. Donc qui est The Final Cut et qui est pour le coup quasiment en échec commercial en fait, mais que moi j'aime beaucoup du coup. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus donc.
Ben merci Alexandre.
Merci Alex.
T'es vachement bien renseigné sur le sujet quoi.
Ouais, je me suis fait beaucoup.
C'est extrêmement complet quoi.
Je me suis fait vraiment plaisir à le faire ouais pour le coup.
En plus ça m'a rappelé parce qu'en fait je sais pas si c'est toi ou c'est quelqu'un qui m'en a déjà parlé, mais j'ai vu des extraits de ce film.
Je crois qu'on avait parlé en fond.
Et en fait du coup ça m'a fait un rappel de tout ça. Je me suis dit putain ouais, je me souviens d'un truc vraiment. Vraiment chelou.
Oui.
Malaisant, tu vois, quand bizarre, on voit dans nos jours, tu vois, c'est.
Mais les clips, c'est pas des morceaux du film.
Oui, oui, enfin ouais, c'est les extraits du film, ouais.
Avec
c'est
ça. Les marteaux qui marchent.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les extraits du film, donc.
L'instituteur, ouais. Il est flippant.
Mais Comfortable in Home, c'est
The Wall,
on est d'accord.
C'est ben justement.
C'est il fait le bad.
C'est juste avant de se faire son injection justement, ouais. C'est que vraiment il y a tout un bad et du coup il revient un peu dans son enfance, dans les traumatismes de son enfance, etc.
Ouais,
et
en fait, il est sur la chaise, complètement à mort dans sa télé.
C'est ça. Il vient de péter son câble avec la groupie. Là, ouais, avec le coup de lâche planqué dans la chambre, et effectivement, il est complètement amorphe. C'est là que son médecin lui fait une injection, et que du coup, il en vient à faire ses délires de dictateur. Là, pour le coup,
j'ai une petite anecdote sur ce film que je n'ai jamais vu. On m'a toujours conseillé de le voir,
ouais.
Et j'ai un poste. Tu parlais de LSD qui était vraiment le truc à la mode à l'époque, hein,
oui,
qui est toujours visiblement. J'ai un pote qui l'a vu sous LSD et qui m'a conseillé de le voir sous substance. Alors moi, je ne touche pas à la drogue, mais en fait, il m'a dit qu'il avait entendu des sons parce qu'il y a certes le film qui est un peu psyché avec les phases d'animation, mais il y a des sons qui sont quand même hyper particuliers chez Pink Floyd. Et il me dit en fait, quand tu es sous substance et que tu regardes ce film, tu vois des trucs que tu n'as jamais vus. Et t'entends des sons que t'entendras plus jamais dans ta vie.
Ça m'étonne pas.
Mais bon, ça va avec le délire du.
Oui, bah évidemment.
Ouais, mais même, est-ce que c'est pas juste toi qui te fais tes propres allures en fait, tu vois, genre est-ce que deux personnes qui vont être sous LSD vont dire putain, on a écouté des sons et en fait ils entendent pas du tout la même chose, c'est juste eux qui se font des films dans leur tête en fait. Voilà, après pareil.
Je touche mais pas moi ça, déjà mais... qu'un film comme ça le voir, je pense que ça va me mettre mal à l'aise, tu vois.
C'est malaisant.
Mais alors si en plus je suis en bad trip.
Ouais, c'est.
Tu l'as vu toi, Michael?
Moi j'en ai vu pareil, j'ai vu que des extraits. Après, pareil, on me l'a beaucoup vendu. Et puis, en fait, je l'avais commencé. Je l'avais commencé, mais il dure comme 2h15, il est long.
Ouais, oui, il est long, ouais.
J'avais commencé et c'était il faut assumer les 2 heures, quoi. T'es là, tu commences le premier quart d'heure. Je crois que j'avais fait un bon quart d'heure, une demi-heure. T'es là, tu fais. Ah ouais, c'est quand même un truc, quoi. Il faut, c'est une expérience visuelle, quoi. C'est Avatar avec la 3D, 4D, plus sous LSD.
C'est un film en plus qui n'est pas forcément bien vieilli, qui n'a jamais été remasterisé. C'est un film qui est 80 ans, qui n'a jamais été remasterisé. Donc les versions que tu peux trouver, que ce soit en DVD ou en streaming, sont pas forcément super, super top au niveau de la qualité graphique. Et puis, bon, faut assumer aussi, d'un seul coup, tu passes d'une scène filmée, d'un seul coup, tu passes à une scène d'animation, mais sans transition, quoi. C'est vraiment c'est de but en blanc. Et même possible que d'un seul coup, la scène filmée se transforme en scène animée d'un seul coup. Et donc, c'est. Et des fois, wow, faut s'accrocher, quoi.
Il me semble qu'en fait, j'avais commencé à le regarder, mais j'étais pas seul, j'étais avec des potes, et on était en soirée, en gros, on s'était dit, vas-y, let's go, on se le mate et tout, tu vois, donc on était un peu alcoolisé, quoi. Bon, on était peut-être un peu carrément déchiré, mais juste, en fait, on a commencé à regarder le film, on m'a dit, vas-y, il faut vraiment que tu le vois et tout, et un pote, il me l'a montré, et en fait, au bout d'un quart d'heure, même 20 minutes, même lui, il fait du bon, c'est vrai, quoi, on s'est chié, quoi. Genre, voilà, c'est pas que le film est chiant, quoi que ce soit, c'est juste que, bah, ça allait pas avec l'ambiance, et surtout, c'est vraiment très particulier. Après, c'est une expérience cinématographique, je pense. C'est comme les films, genre des trucs à la Sin City, ou des trucs qui ont vraiment un truc graphique très particulier, très unique, que tu retrouveras nulle part ailleurs, quoi. Enfin, pour le coup, clairement, je pense qu'il n'y a aucun autre film comme ça.
Hein. Ouais, non, donc, je pense que c'est particulier.
Après, peut-être qu'aussi, c'est un film qui mérite qu'on connaisse l'histoire du en amont,
ouais.
Qu'on sache comment il
ouais.
a été,
ouais.
comment l'album a été construit, ce truc d'égocentrisme de ouf. D'un type qui va monter son machin, quoi. Et qui traite ses propres démons, hein, certainement, là-dedans.
Oui, il y a de ça aussi, ouais.
Après cette passionnante du coup entrevue sur Pink Floyd, c'est à toi Mika.
J'avais noté quelques petits sujets que je voulais aborder, voilà, je voulais parler, partager les trucs que j'avais fait récemment, qui ne soient pas du coronavirus, du boulot ou voilà, de la morose ambiante.
Il l'a dit, le mot coronavirus.
Non, c'est pour situer géographiquement et surtout
dans le temps.
Dans le temps, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Non, mais géographiquement, ça veut dire qu'on n'est pas en Afrique, tu vois, par exemple. parce que eux, ils savent pas ce que c'est. Voilà, ils n'ont peut-être pas encore entendu parler. Ça va pas tarder à arriver, hein, parce que les Italiens y vont. Mais... bref, on s'en fout. J'ai testé il y a pas longtemps. Je suis allé chez un pote qui possédait un casque de réalité virtuelle. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en faire?
Non. Non, c'était une fois, ouais. C'était le casque, c'était HTC, je crois qu'il le faisait.
Alors, est-ce que c'était le casque avec le téléphone? Ou est-ce que c'est genre un casque vraiment sur l'ordinateur, genre à l'Oculus Rift en fait? Parce que moi, c'était un Oculus.
C'était sur l'ordinateur.
Oui, alors ouais, parce qu'il me semble qu'à HTC, ils ont deux gammes, ils ont un truc pour les téléphones et effectivement un truc pour l'ordi. Qu'est-ce qu'on a pensé?
C'était dingue, bah, vraiment, c'était simplement au début du truc, hein, pour le coup, c'est en même temps que PS3 avait sorti son casque aussi pour la PS. Moi, c'était une petite expérience de base, c'est-à-dire que le mec nous a fait tester vite fait sur Google Maps, en Street View et tout, donc c'était assez particulier quand même pour le coup, tu te dis, voilà, t'es en plein milieu de l'image, c'est ok. Mais du coup, c'est dingue quand même.
Ouais, c'était pour ça, parce que du coup, j'ai trouvé ça formidable, le fait de pouvoir, en fait, complètement s'évader, pareil, il nous a téléchargé Google Earth et en fait on est allé au Kilimanjaro, on est allé partout dans le monde et en fait tu es vraiment dans les trucs, tu es vraiment évidemment pas vraiment et c'était justement ça que je voulais parler parce que genre est-ce que c'est pas un peu dangereux, voilà, je voulais votre avis là-dessus parce que moi personnellement je me suis bien éclaté à faire, notamment du Beat Saber, hein, si jamais vous avez l'occasion d'en faire c'est génial, sauf que voilà j'ai surtout vu
Beat Saber, vous connaissez, c'est pas le truc où on tape des trucs,
voilà, est-ce que vous connaissez Guitar Hero?
Ouais.
Voilà, c'est
ouais.
Un peu le même principe, sauf que tu dois pas jouer des riffs ou quoi que ce soit, c'est un jeu de rythme où tu dois, t'es en VR et donc devant toi des cubes apparaissent et tu dois les taper avec des sabres laser virtuels dans le bon sens, voilà, donc t'as des petites flèches, t'as un cube bleu, un cube rouge et ensuite tu dois les casser, donc au début t'as deux cubes, t'es là, tu fais c'est marrant, c'est facile, puis ensuite quand t'arrives les modes experts, évidemment t'as 300 cubes qui t'arrivent à la seconde et c'est plus dur, donc ça fait faire ton petit sport de la semaine et tout, c'est super sympa et puis c'est très rythmé, par contre c'est très difficile de décrocher et c'est là que je trouvais ça un petit peu entre dangereux parce que je n'étais pas seul, hein, j'étais avec des potes et notamment ma copine et en fait ma copine pendant 25 minutes 30 minutes elle était sur Google Earth, elle était juste complètement perdue et en fait quand elle a enlevé le casque elle a dit un truc qui m'a un peu fait prendre conscience, elle m'a fait waouh, je suis plus habitué à la réalité. Et là, je me suis dit, c'est en plus, c'est quand même un truc très très actuel et tout, les notions de réalité virtuelle, en plus avec les androïdes et tout ça, enfin bref, la technologie qui finit par nous rattraper. Est-ce que finalement, des films comme Ready Player One, trucs comme ça, qui nous disent, qui nous décrivent des mondes un peu apocalyptiques à cause de la VR, est-ce que vous pensez vraiment que ça va arriver ou est-ce que vous, ça vous éprouve plus de curiosité quoi que ce soit ou vous en avez rien à faire, simplement?
Plus que la réalité virtuelle, ça à la rigueur je pense effectivement si c'est quelque chose qui est relativement bien encadré ça peut aller. Moi un truc qui me ferait flipper en termes de dystopie dégueulasse c'est le fait d'avoir directement des implants dans la tête ou des trucs comme ça tu vois, enfin
des améliorations cybernétiques.
Ouais. Ça c'est un truc qui tu vois t'as eu des frissons franchement mais c'est un truc auquel on va et en fait et vis-à-vis ça me fait me questionner parce que vis-à-vis par exemple du téléphone portable ou même d'internet à la base, quand les gens n'en avaient pas au début, ils avaient le choix de ne pas l'avoir. Et en fait, le problème, c'est que la société, elle est allée dans ce sens-là, et au bout d'un an, maintenant, si tu veux faire de l'administratif, si tu veux avoir un boulot, etc., t'es obligé d'avoir un tel, possiblement un smartphone, c'est quand même mieux, t'es obligé d'avoir internet, ou alors sinon, t'es un peu dans la merde. Et moi, ce qui me fait flipper, c'est si jamais on va dans ce coin-là, dans cette idée que t'es obligé d'avoir des implants cybernétiques, des trucs comme ça, de transhumanisme, c'est ça que je cherchais, ouais. D'être obligé d'être comme ça pour pouvoir vivre, ça me ferait flipper un peu. La réalité virtuelle à côté, ça peut aussi être un défaut parce que si jamais tu peux switcher en virtuel avec ton truc, le futur, de toute façon, le principe de la dystopie, c'est d'alarmer sur des problèmes du futur, donc de base, c'est souvent des problèmes qui sont proches, plus proches qu'on ne pense. Ne serait-ce par exemple, regarde Minority Report, par exemple, le fait de traquer les criminels juste via des actions que tu n'as pas encore faites ou que tu vas possiblement faire, aujourd'hui, on est capable plus ou moins de faire ça, de repérer les gens s'ils sont potentiellement agressif ou non via des caméras de vidéosurveillance.
Non, ils ont une barbe, voilà.
Donc il y a des côtés flippants. Moi la VR, je sais pas si je serais intéressé peut-être d'en faire, mais je pense que j'aurais envie de, comme tu disais, gerber en fait au bout d'un moment.
En fait moi je suis pas du tout la bonne parole là-dedans. Je suis à l'inverse de ma génération, anti-développement. Non, je suis pas anti-développement, mais ça faisait un an et demi que j'avais pas d'ordinateur. Je viens d'en racheter un. Je l'utilise une fois toutes les deux semaines parce que me retrouver devant l'ordinateur, ça m'angoisse. Alors que avant je voulais faire de la 3D quoi, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Maintenant j'ai vachement peur de ça. Mon portable, il y a des fois où j'arrive pas à décrocher. Ça m'est arrivé là dans les mois où j'étais au chômage de noter sur un cahier, genre là tu mets ton portable sur hors ligne parce que t'as besoin de temps pour toi, d'aller marcher, d'écouter de la musique ou quoi. Et de se dire que déjà pour de la technologie du quotidien, je suis obligée de me noter des trucs. Alors la VR, moi ça m'angoisse au plus haut point en fait, mais la technologie et l'avancée technologique pour le divertissement me fait flipper parce qu'on arrive dans des temps où peut-être qu'on aura plus besoin de travailler parce que si le progrès va assez vite, bah, il y aura des ordinateurs qui travailleront à notre place, parce qu'il y aura des trucs qui feront les choses à notre place, et qu'on aura tellement de temps libre qu'on sera plongé là-dedans, dans cette surconsommation de produits technologiques. Et la VR, c'est quand même quelque chose qui arrive, la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui arrive assez vite et qui prend beaucoup de place actuellement. Donc ça m'angoisse, plus qu'autre chose.
Ok. T'as pas l'air d'accord, franchement.
Non, mais j'étais vraiment en train de réfléchir à ce que tu disais. Je sais pas si on travaillera moins un jour, enfin j'espère, mais.
Moi, j'y crois pas trop, en fait.
Je trouve qu'on a toujours dit oui, il y a des nouvelles technologies, donc du coup, on travaillera moins. J'ai l'impression que ça n'arrive pas en fait.
Non, mais il y aura toujours des gens pour travailler. Enfin, c'est pas que oui, on travaillera moins.
Mais je crois pas trop au monde où on n'aura plus besoin de travailler et finalement on aura juste besoin de se divertir, quoi.
Moi, je suis plus tendance à croire que le divertissement va au contraire nous permettre de. Enfin, pas nous permettre, mais permettre au gouvernement plutôt de faire en sorte qu'on se pose pas trop de questions. C'est un peu comme le jeu du cirque, tu vois, du pain et du sang, comme ça, le peuple il gueule pas, quoi.
Ouais, ça veut dire qu'on va travailler plus, mais que...
On travaillera plus, mais on aura plein de divertissements pour oublier le fait qu'on travaille dans une misère, quoi, tu vois.
Ouais, mais dans tous les cas, ça me fait flipper, ça.
Oui, ça me fait plus flipper. Par contre, si tu me dis que j'ai du temps pour moi, mais que du coup, je suis absorbé dans le jeu vidéo, bah écoute, tant que j'ai le temps de faire ce que j'ai envie de faire, ça me va, quoi.
Ouais, moi j'ai peur un peu de la non-interaction sociale réelle et de la non-interaction avec l'environnement extérieur. C'est que une réalité virtuelle, par exemple, d'une rando ou de se retrouver à côté du Kilimanjaro, enfin... Ça doit être ouf, tu vois. Mais putain, t'as pas l'air, t'as pas les odeurs, t'as pas ça. Et en même temps, bah, quand tu reviens, t'es un peu déboussolé quand t'enlèves ton machin. T'as peut-être un peu perdu l'équilibre. Les proportions sont pas les mêmes. T'es dans ton salon alors que t'étais dans un espace hyper grand. Je suis pas sûre que le cerveau il soit fait pour supporter des tels chocs.
Bah, c'est une question de dose, quoi.
Ouais, et puis on a besoin de l'extérieur, quoi. On a besoin de la nature, quoi.
La verre, c'est... un support comme un autre peut-être, ouais. Et si tu l'utilises pour enfin moi j'ai eu l'occasion de regarder un court métrage comme ça qui était ouf parce que t'es vraiment plongé dans un autre univers du coup, mais en soi ça a pris un quart d'heure de ma vie et je regarde un très bon souvenir et j'aurais peut-être pas eu ces émotions là etc avec un autre support, quoi.
Ouais, moi je comprends le côté alarmiste là-dessus. Après, je pense qu'il faut pas non plus tomber dedans. Mmh. Dans le sens où, tu vois, même les. Alors, peut-être qu'un jour ces barrières elles sont moins, mais il y a quand même encore aujourd'hui des barrières de sécurité là-dessus. Dans le sens où, voilà, t'as les petits messages dessus, il te dit voilà, tu devrais penser à aérer ton esprit, enlève ton casque et tout. T'as les petits messages qui te disent pour éviter que justement tu restes des heures et tout. Mon pote qui l'avait disait bah moi ça m'arrive de rester 7-8 heures dessus, effectivement c'est vrai que tu vois pas trop le temps passer parce que tu t'éclates dessus, quoi. Mmh. Mais voilà, c'est parce que ça répond aussi à un besoin d'évasion que tu peux pas forcément avoir dans la vie réelle, parce qu'il y en a qui peuvent pas avoir ce choix d'être à l'extérieur ou d'avoir la nature à portée entre guillemets. Mmh. Et ça peut être un vecteur justement de société entre guillemets, dans le sens où bah voilà, moi je suis beaucoup de jeux vidéo que j'ai pratiqué dans ma vie, c'est aujourd'hui grâce à ça que j'ai pas mal d'amis. Ça paraît antinomique, n'est-ce pas? Mais voilà, aujourd'hui c'est, je peux même le dire, hein, c'est aujourd'hui grâce aux jeux vidéo, dans World of Warcraft bien sûr, que j'ai une vie sociale. Mais je pense pas que ce soit incompatible les deux, mais effectivement je pense qu'il faut quand même garder ça d'un côté, enfin, il faut garder ça du coin de l'œil parce que tout dépend de la méthode d'utilisation, ça peut effectivement mal.
Ouais, c'est
ça,
ce que dit Franchon, c'est que finir, peut-être ouais. pour un truc de 20 minutes, une sorte d'expérience ouais, ouais. Pour un propos particulier ou pour, ouais, pour un film d'animation ou pour une expérience artistique ou culturelle, ok. Par contre, il faut voir si ça prend pas trop de place ouais. Et de la manière dont on lâche la bride face à ce genre de.
Moi, je pense que ça sera vraiment triste le jour où. Justement, même si tu dis que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la nature autour de soi, tu peux quand même sortir dans la rue, voir les gens bouger, interagir ouais, mais... ensemble. Enfin, je veux dire, il y a...
Ouais, ouais, je sais pas. Après, je suis allé 4 fois à Paris dans ma vie. À chaque fois que j'ai vu des gens bouger dans la rue, c'était pour s'insulter. Et puis, je t'avoue que les interactions sociales, là,
Il y a d'autres villes.
Non, mais je sais, mais justement, c'est ce que tu dis, il y a d'autres villes, tu vois. Et moi, déjà, j'aime pas les villes. Pas les grandes villes.
Non, mais il y a autre chose que juste marcher dans la nature, c'est ça que je veux dire.
Voilà, ouais, non, mais bien sûr, je l'entends bien aussi. Après, je pense qu'il faut aussi. C'est quand même une technologie voilà, qui existe. Il ne faut pas non plus la laisser complètement de côté, dans le sens où justement, pouvoir savoir l'appréhender, pour moi, c'est important, dans le sens où si un jour ça permet de se développer ou quoi que ce soit, bah, ça peut être aussi une bonne chose. Tu vois, par exemple, nous, on est allé. On a pris Google Earth et on est allé en Inde avec Google Earth. Ben, ça nous a donné envie d'aller en Inde, en vrai.
Et c'est plus écologique.
Et du coup, voilà, pour l'instant... voilà.
Ben, prenez pas l'avion.
Ouais, c'est plus écologique, parce que ton casque VR, il est fait...
Non, mais plus que de prendre un avion pour aller en Inde.
Faut voir, hein, c'est pas dit, hein, parce que le truc, il est transporté en pièces, il est fabriqué avec des matériaux, donc faudrait vérifier, mais c'est pas dit, hein.
Et en plus de ça, t'as le fait que c'est stocké sur un disque dur, et t'as énormément de photos les unes à côté
des autres. Oui, c'est pour beaucoup de choses.
Par contre, c'est ça, effectivement.
C'est sûr que si tu l'achètes dans le but d'utiliser une fois en disant ouais, bof, c'est... Et puis, ça finit dans ton placard pendant 20 piges.
Effectivement, ça t'a coûté cher.
Ça t'a coûté cher, ça coûte cher aussi à la planète, certes. Et puis, en fait, t'as... Mais je pense que la VR, déjà, c'est qu'on soit d'accord ou pas, c'est une suite logique du processus de. Outre le monde extérieur, parce que oui, j'entends, tu peux te balader dans la nature, etc., mais tu peux aussi, via la réalité virtuelle, aller à des endroits où, de toute façon, tu peux pas aller parce qu'ils n'existent pas non plus. Donc, tu peux aussi voguer vers des mondes fantastiques et tout, et je pense que ça se fera au fur et à mesure du temps. Parce que quand tu regardes, ne serait-ce que les pays qui ont la pointe du système, par exemple, le VR au Japon, etc., ils se sont posés déjà la question depuis des années. Hein. Il y a déjà des dystopies sur le sujet et qui sont assez célèbres. Bah, tu as le Sword Art Online, ou Log Horizon. Enfin, ce sont des histoires qui sont basées sur des gens qui vont justement dans un monde virtuel à la manière d'un MMO, mais sous casque des réalités, ils s'endorment. Et pour l'une de ces histoires, en tout cas, tu as la réalité virtuelle qui ne veut pas s'arrêter. Ce qui veut dire que tu vis à travers ton pseudo-rêve avec les problèmes que cela peut causer en santé, etc. Quoi.
Ouais,
mais c'est un peu un tout. C'est-à-dire que tout dépend comment tu l'es utilisé. Je veux dire, t'as une personne qui est à l'hôpital en stade final d'un cancer, etc. Bah, ça sera toujours un merveilleux souvenir, je sais pas, de pouvoir remarcher ou de faire des trucs comme ça, que l'utiliser tous les jours alors que t'es à la campagne et que t'as de quoi faire, quoi. C'est une question de temps, de lieu et d'attitude.
Ça dépend des envies de chacun. Le seul truc, c'est que parfois, j'ai moi, dans mon angoisse que j'ai de la technologie, c'est pas une grosse angoisse, hein, je suis pas dépressive au point de tout renier.
Tu fais du feu avec un briquet, non uniquement du silex. J'ai appris à le faire, maintenant c'est fini. C'est silex et marcassif. Je sais pas comment vous faites, mais.
C'est avec la friction de temps en temps.
Quand je trouve des morceaux de bois.
Ouais, mais c'est trop technologique pour moi.
Faire une corde et tout.
Non, mais j'ai ce truc là de dire que ça prend de plus en plus de place dans nos vies et dans nos attentes. On parlait au tout début du truc, quoi.
Comme quoi tout est lié, hein.
Mais ouais.
C'est incroyable.
J'attends de voir avec le pyjama.
T'avais un truc juste avant qu'il commence, juste au moment où il a commencé, franchement, t'as eu un truc de faut que je. Franchement, tu m'as fait un signe.
Oui, parce que la première fois que j'ai mis ce fameux masque sur mon visage, j'étais à Orniac, je crois, qu'ils avaient fait.
Oui, on l'avait fait à Orniac, ouais.
Et je t'ai regardé parce qu'il me semblait que t'étais là.
J'étais là, oui.
En fait,
j'ai menti tout à l'heure, effectivement, j'ai déjà fait
de la merde. Et du coup, c'était ma première expérience de ça, et j'ai trouvé ça naze.
C'était de la merde.
C'était vraiment de la merde. Non, alors,
mais c'est pour ça que j'ai oublié. Essayons de nuancer
les propos. Nuancer les propos, s'il te plaît.
Orniac, c'est un site qui est très très bien. Allez le voir, c'est un Aven, c'est fantastique. On fait un peu de pub pour compenser le fait qu'on ait dit que leur VM c'était de la merde. Non, c'était pas de la merde, c'était décevant parce que par rapport à l'attente qu'on en avait, car tout est lié, et bien, du coup, elle était moins bonne. Voilà, bref.
C'est-à-dire, c'était quoi que vous voyez? C'était quoi le but? C'était de voir l'intérieur?
Oui, c'est l'intérieur de l'Aven. Et tu voyais tout ce que tu peux voir en visite, mais de manière plus aérienne, je dirais, non?
Ouais, bah en fait, c'est ça, en fait, t'étais comme ça, tu... Oh là, regardez, un campement d'hommes de la
préhistoire. Et la qualité de l'image aussi était pas...
C'était quand?
Pas top.
C'était
il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, c'était en 2018.
Parce que j'ai vu que cette année, ils faisaient en réalité virtuelle le...
Tu peux dire VR, n'est pas
VR. Oui, je sais pas, j'aime pas trop les acronymes.
T'aimes pas, je sais, il y a plein de dire quand même.
Ils font toutes les parties qu'on ne peut pas visiter. En réalité.
Donc, oui, il l'avait fait aussi, on avait vu ça, les parties qu'on pouvait pas visiter. C'était très sympa, hein. À voir, c'était sympa, mais en fait, c'est le fait de vendre un truc genre réalité virtuelle. Là, tu fais yes, ça va être trop bien. Et en fait, non, c'est juste que c'est comme sur Google Maps et où quand tu tournes, c'est comme ça, sauf que c'est toi qui tournes. Okay. Donc en fait, quand t'es sorti là, tu fais ouais, c'était sympa, mais je suis content de pas avoir payé.
Ouais.
Ouais.
Et on dit que c'est toujours bien, hein.
Mais sinon, Orniac, super!
Allez, Orniac pour la cité de la préhistoire et la veine. Mais ce qu'il y a à côté, peut-être pas toujours, quoi. Ça dépend.
Allez voir des vrais trucs.
Effectivement, pas mal. Des vrais trucs. Inscrivez-vous, faites de la spéléologie, allez voir vraiment la veine d'Orniac.
Et du coup, les réseaux interdits, les réseaux normalement enfin, au public à Orniac, en faisant de la spéléo, tu peux y aller.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres débats que vous voulez lancer? Ou est-ce que on s'arrête là après 1h27
Si tu veux, mais ça va durer 4h encore. Donc. Okay.
Et ben, ce que je vous propose, c'est de garder un petit peu les autres questions que vous pouvez avoir pour une prochaine fois. Comme ça, il y en aura d'autres. Si ce pilote a plu à tout le monde, on continuera à faire ça. Peut-être en étant un peu mieux organisé cette fois-ci. En tout cas, ça a été un super plaisir. Ça m'a fait, pardon, parce que ça veut rien dire ce que je viens de dire. Fait donc du coup super plaisir de tous vous recevoir ici. Merci à tous pour votre participation. Je pense qu'on peut même s'applaudir pour faire du bruit dans le casque.
Ouais.
Ça sature un peu. Hein.
Super. Et bah écoutez, à la prochaine du coup.
À la prochaine.
Salut.
Salut.
Pilote. L'épisode pilote.